Thomas Semo est un mystère. Comment ? Comment des hommes ont-ils pu vivre sous la Terre ? À quoi ressemblait cette société ? Comment ? Et pourquoi a-t-elle basculé ? Pour la première fois, grâce au carnet d'un témoin clé, Victor Colombe, nous allons pénétrer dans cette société souterraine. Nous allons vous la dépeindre grâce au travail des historiens. Nous allons ressortir des diffusions de l'époque et des reconstitutions immersives que nous avons créées par nos soins, juste pour vous. Le décor. Imaginez un monde où le soleil ne brûle plus qu'un désert de sable. Un monde où la surface est stérilisée par les rayons ultraviolets, où tout est calciné. Le soleil ennemi brûle la peau, assèche et tue. Le peu de vie restant à la surface n'est là que pour vous manger et boire votre sang. Comment survivre dans ce monde ? On ne peut pas. Pour échapper à cette chaleur mortelle, l'humanité s'est réfugiée sous terre. Elle a creusé un vaste territoire et s'y est barricadée, tremblante de peur. Une centaine d'années plus tard, l'image de la surface est plus que jamais celle d'un territoire où l'homme ne peut pas survivre. L'histoire. L'histoire avant l'histoire. La colonisation souterraine aurait dû être progressive pour permettre une répartition équitable des espaces de vie. Mais une crise, aggravée par l'orgueil des uns, la bêtise et la méchanceté des autres, dégénéra en guerre civile. La violence déchira les amis et les familles. Les lignes étaient à la fois très claires et extrêmement mouvantes. Celui qui vous sauvait la vie un jour, vous deviez le tuer le lendemain. Certains récits sauvés et entretenus par le pouvoir en place nous sont encore connus. Mais ce ne sont pas ceux de notre histoire. Dans ce chaos humain, la toute dernière étape fut la survenue d'un virus mortel et contagieux. Afin de se protéger, les premiers habitants de Stona Semo se réfugièrent dans l'abri à peine fini. Et ils condamnèrent les portes avec un mélange de ciment et d'acier. L'extérieur était devenu pour toujours un monde hostile. Dehors, la famine, la guerre, le désert, la mort. Dedans, compensant le chaos original, un ordre fort est apparu dans la grotte. Ceux qui ont pris en charge cet ordre se nomment les protecteurs. Ils orchestrent la vie, répartissent les ressources, apaisent les tensions. Chacun doit jouer selon leur rythme et suivre leur partition. Avant de poursuivre la description de cette société, voici un morceau de l'époque, diffusé par les protecteurs.
Vous êtes bien. Les protecteurs sont là pour vous. Ils vous guident. Les protecteurs vous guident. Ils tiennent la grotte loin du chaos. Soyez reconnaissants. Vous mériterez vos heures au soleil. Soyez exemplaires. Cela vous ouvrira les jardins de lumière. Ils vous amèneront vers de vastes jardins de lumière où vous pourrez voir.
Les protecteurs organisent la vie à tous les niveaux. D'après le travail de nos historiens, leur principale mission consistait à maintenir l'apaisement. Quoi de mieux que la méditation ? Permettre aux gens d'accueillir les sensations oppressantes de la vie sous terre, d'étirer, de raccourcir la perception du temps, de ce qu'ils mangent. Dans ce domaine, le principal atout des protecteurs se nomme le mage. Il produit ou autorise la production de toute œuvre susceptible d'être diffusée. Il en détient un monopole absolu. Il règne sur les protecteurs. Nous avons identifié deux grands types de diffusion. Des diffusions collectives qui devaient retentir dans l'ensemble de la grotte et des diffusions restreintes à certains quartiers, plus précises, avec parfois des objectifs bien définis. Ces messages régulateurs ont pour fonction de coordonner la vie sociale, le travail, le repos, la détente. Stona Semo est répartie en deux zones. La première zone est assez restreinte. Elle s'appelle la grotte. La grotte est une vaste cavité située proche de la surface, dans laquelle ce que l'on nomme les plus vivent de façon oisive. Dans ce ciel de roche, des puits de lumière filtrent le soleil par un système de volets et le diffusent par un jeu de miroirs orientables. Grâce à ce système, l'agriculture y est possible. Ces champs hautement productifs sont surnommés les jardins de lumière par ceux qui y travaillent. La main-d'œuvre est constituée par les plus méritants des habitants de la seconde zone, qui se nomme le réseau. Ces habitants-là sont surnommés les moins. Le réseau est constitué de tunnels, plus ou moins larges, et de plus en plus dépendants de l'éclairage électrique au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la grotte et de sa lumière naturelle. Le réseau s'étend en permanence pour acquérir de nouveaux territoires, trouver de l'eau ou divers minerais, ou tout simplement des logements. Qui sont les protecteurs? Voici une présentation, extraite d'une rédaction d'un élève sur les protecteurs. Les protecteurs ont le matériel nécessaire à leurs missions, qui sont nombreuses. Ils sont autant que possible en réserve, et, preuve de sagesse, interviennent le moins possible dans la vie courante. Lorsqu'ils se déplacent, un sonar leur permet d'évaluer le nombre de personnes présentes. Leur grande stature confère une autorité naturelle. Le blanc de leur uniforme est le symbole de la pureté et de ralliement des partisans de l'ordre. Leur casque blanc est insonorisé et en liaison permanente avec les autres protecteurs. Ils ont une telle maîtrise dans la technologie qu'ils peuvent neutraliser un individu ou un groupe d'individus avant même de les voir, grâce à la maîtrise sonique. Quelle est la vie exactement dans les tunnels? Nous ne savons pas exactement, mais nous pouvons nous en faire une image, grâce à des archives inédites que nous vous présenterons dans notre prochain épisode. Je vous laisse avec un son de l'époque, signalant la fin de journée. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 2.
Voici maintenant la fin de journée. Vous avez déjà mangé, vous vous êtes préparé au sommeil et vous vous installez dans une position confortable. Vous passez en revue votre journée. Peut-être certains détails vous ont été agréables et vous êtes fier d'avoir réussi quelque chose. Par exemple, un quota d'algues est supérieur à demander. Peut-être que votre travail a quelques défauts et que vous pourrez les améliorer demain. Vous identifiez ces points. Vous vous visualisez en train de corriger. Imaginez-vous en train de remettre un quota supérieur à celui de demander au protecteur. Demain, vous y arriverez. Chaque jour amène son lot d'opportunités d'être exemplaire, de s'améliorer. Aujourd'hui, 18 postes se sont libérés dans les jardins de lumière et demain vous saurez à qui ils sont attribués. Maintenant connectez-vous à votre respiration. Inspirez. Bloquez-la quelques instants et soufflez doucement par la bouche. L'opération